Bienvenue sur Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je suis Adrien Garcia, designer et fondateur de la marque de vêtements Réuni. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'une personnalité du monde de la mode pour comprendre son parcours, ses problématiques et ses stratégies pour innover et se développer. Avec ce podcast, je souhaite recueillir et partager des conseils pratiques et des idées neuves pour se lancer et réussir dans la mode. Entreprendre dans la mode, c'est aussi une newsletter dans laquelle je partage chaque vendredi les outils, les méthodes et les apprentissages clés d'un entrepreneur à succès. Pour ne pas rater les prochaines, inscrivez-vous gratuitement sur www.entreprendredanslamode.com. Enfin, si vous souhaitez sponsoriser ou co-créer du contenu avec Entreprendre dans la mode, c'est possible. Là encore, rendez-vous sur le site web du podcast. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la mode. Et aujourd'hui, c'est un grand jour parce que j'interview un de mes photographes préférés. Voilà, il s'appelle Bastien Latenzio. Il est en face de moi, il est chez moi et il y a même des photos de lui accrochées au mur, donc autant vous dire que je suis vraiment content. Salut Bastien.
Salut Adrien, merci pour l'invitation.
Merci d'être venu, de l'avoir accepté. Ma première question, tu la connais sans doute, c'est est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît?
Bien sûr, je m'appelle Bastien Latenzio, je suis photographe. Principalement de mode, mais aussi d'autres choses, mais je pense qu'on va en parler. J'ai 37 ans, je suis français, je suis né à Annecy, ville que tu connais, et j'habite à Paris depuis 15 ans maintenant.
Trop bien. Deuxième question, c'est est-ce que tu pourrais te reprendre ton parcours depuis ta plus tendre enfance, donc à Annecy? Où est-ce que t'es né? Où est-ce que t'as grandi? Qu'est-ce que faisaient tes parents? Qu'est-ce qui t'a amené à la photographie? Et on va diguer dans tout ça pour comprendre comment on devient photographe.
Je sais pas trop d'ailleurs, je me pose la question encore. Mais ma mère est psy, oncologue, et on vit dans un appartement. Mon père était fonctionnaire. Il bossait à la mairie en gros.
Tout ça à Annecy. Hein.
Tout ça à Annecy. École classique, bac classique. À 18 ans, je pars à Lyon pour faire des études pour bosser dans l'humanitaire, faire de la logistique humanitaire. Et en fait, dû à une rupture, ma mère m'a offert un appareil photo pour je pense à autre chose. Et voilà. Et donc, je me suis mis à la photo et j'allais de moins en moins en cours. Et j'allais de plus en plus dans la rue pour faire des photos. Ça a commencé par une fois par semaine où je ratais les cours. Puis après, c'était deux jours par semaine. Puis voilà, etc. Et au bout d'un moment, la deuxième année, j'allais plus en cours et je faisais que de la photo dans la rue. Et donc, à un moment, je me suis dit que ce qui me plairait de faire, c'est de la photo.
Trop bien. Et là, c'est 18 ans.
Ouais, entre 18 et 20 ans, tu vois.
Ce qui paraît hyper tard, tu dis...
Après, j'avais quand même un œil depuis très gamin. C'est-à-dire que je suis très fort à la cueillette des champignons. Parce que tu vois, je regarde tout.
T'es un sniper.
Je suis un peu un sniper. Quand je suis dans un resto et qu'il y a quelqu'un que je connais, je le regarde, je le vois limite avant qu'il soit là. Tu vois. J'ai un truc où je suis. Tu vois. Je faisais un peu de peinture gamin, j'étais très attiré par les couleurs. Tu vois, la preuve, toutes mes photos maintenant, c'est quand même assez coloré, assez
c'est
saturé.
C'est très, très couleur. Hein.
Je ne fais jamais de noir et blanc, tout ça. Donc j'avais un œil pour... J'avais une envie, en tout cas, de faire de la photo depuis longtemps, je pense. Et le fait d'avoir un appareil un peu qui tient la route, c'était bien.
Et t'as appris tout seul, c'est self-made.
Ouais, j'ai fait aucune école, même pas un petit stage ou genre de truc. Non, c'est... Après, techniquement, un appareil photo, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. C'est pas comme une caméra où faut apprendre des travelling, faut apprendre des trucs. Un appareil photo, où ça se règle tout seul, où t'apprends à le régler et t'as, on va dire, deux facteurs, la vitesse et le diaph. Dès que t'as compris ça, t'appuies sur le bouton et après, le problème, c'est ce qui se passe devant, tu vois. Mais non, j'ai jamais appris. J'ai appris tout seul, quoi.
Autodidacte. En faisant.
C'est ça. Et donc, à 20 ans, j'ai décidé de monter à la capitale, comme on dit, pour me lancer dans la photo.
En mode, je monte à Paris pour me lancer dans la photo, normal.
Et je vais pas dire que j'avais pas un sou en poche, parce que c'est pas vrai, mais ma mère m'a dit, essaye, tu vois, 2-3 ans, je t'aiderai, tu vois, si tu galères. Et puis, en fait, j'ai jamais trop galéré, ça a marché tout de suite assez bien.
C'est quoi ton premier contrat?
Alors, mon premier contrat, c'est chez Clark Magazine. Je sais pas si ça te parle. C'était Guillaume Le Goff à l'époque, qui était rédacteur chef de ça et qui m'a donné ma chance alors que j'avais fait aucune photo, tu vois. J'avais 2-3 photos dans la rue et 2-3 photos de mes potes, mais... Et j'ai commencé par faire un reportage sur le street golf à l'époque, à Berlin, à Londres, tout ça, tu vois, j'étais parti tout seul et c'était hyper cool. Et c'est lui qui m'a vraiment donné ma chance. Et après, j'ai bossé pendant 4-5 ans avec eux. Mais tout ça a été très tourné autour de la musique, le streetwear, ce genre de trucs. Tu vois, j'étais pas du tout dans la mode comme je fais maintenant, tu vois. Et ça, c'était hyper cool. Et comme tu le sais, quand tu fais des magazines, quand tu bosses dans un magazine, les marques achètent le magazine quand il est cool et donc ils voient que tu bosses pour ce truc, donc ils se disent t'es cool. Et donc c'est à partir de là que j'ai commencé à bosser pour des marques.
D'accord, parce qu'ils aimaient bien tes photos.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Ouais, c'est aussi simple que ça.
Et il n'y avait pas Instagram à l'époque.
Ouais. Tu vois, donc le magazine, c'était vraiment le média
C'était
pour montrer ton taf, quoi.
Ouais, c'était le seul, ouais. Quoi. C'était le seul truc.
Là, on est encore en 2000, quoi.
Là, bah, on est en 2003-2004, où je fais que de la presse un peu underground, on va dire. Je fais du WAD, du Clark, ce genre de truc, tu vois.
Et là, tu te rends compte quand même de la chance que t'as. Enfin, tu kiffes ou pas? Parce que, est-ce que c'était extraordinaire ou pas plus que ça? Il y avait plein de mecs comme toi.
Non, il n'y avait pas beaucoup de photographes. Je sais pas quel terme employer. Cool, hype, underground. Tu vois, je sais pas trop le truc. Maintenant, ça vaut plus rien dire grand. Ça veut pas dire grand chose, mais. Je sais pas si je me rendais compte que. En fait, j'adorais le magazine et j'aimais bien l'univers avant. Et donc, le fait de mettre un pied dedans, c'était très bien pour moi, mais je me disais pas, waouh! Tu vois, c'était cool. Je faisais partie du truc. Mais tu sais, quand t'es dans le système, tu le vois moins. Et non, j'avais. Je pense que tu te rends compte de la chance que t'as, mais en même temps, t'es toujours tout le temps un peu frustré de pas avoir mieux, tu veux plus, tu vois. Tu te dis, bon, bah là, c'est bien. Quel est le next step, tu vois? T'es jamais satisfait? Là, je suis toujours pas satisfait. Je pense que je serais jamais satisfait, tu vois. Tant que j'aurais pas fait une campagne Chanel et 14 coupes de Vogue, je serais pas content, tu vois.
Normal, ok. Ouais. Comment tu te formes? Comment tu te formes à ton. Comment tu te formes l'œil? Parce que t'as appris tout seul dans la rue, etc. Mais t'avais quand même 2-3 photographes que tu regardais, non? Qui t'excitaient ou pas du
tout? Un peu. Mais j'ai jamais été un nerd de la photo, tu vois. Je pense que t'as plus de bouquins de photos que moi, par exemple. Ouais. Y a certains photographes que j'aime bien, je vais pas commencer à les citer, mais tu vois, des Jürgen Teller, ce genre d'univers, moi j'aime beaucoup. Mais en fait, tu te formes en shootant. T'apprends à chaque photo, j'apprends un truc, même encore maintenant, tu vois. Chaque photo, j'apprends à. Ah tiens, cet angle-là, il est mieux, il faut se baisser, tu vois. Et c'est vraiment en shootant et en re-regardant tes photos, en les retouchant, tu te rends compte que, ah tiens, ça, j'aurais dû le faire autrement. Ce genre de choses, ouais.
D'accord. Et donc là, 5 ans chez Clark. Enfin, chez Clark. Après, là, t'es quoi? Tu t'es pigiste, en fait. Ils te payent à l'article.
Je suis auto-entrepreneur. Ils me payent genre 100 balles la page, tu vois. Et t'essayes d'en faire le plus possible.
Et ça te permet de vivre, etc.
Ouais, parce qu'à côté, t'as des marques comme Reebok, tu vois, qui te disent, tiens, on a un petit lancement de chaussures, tu veux pas faire... prendre 2-3 potes qui sont jeunes, cool, parce que nous, on les connaît pas, et tu vas dans la rue, tu fais 4 shoots, et ça, c'est ça qui te fait vivre, quoi.
Trop bien. Et alors, vas-y, raconte-moi les différents milestones, les grandes étapes de ta carrière.
Clark, c'est vraiment le début, donc c'est vraiment, tu vois, chaque fois que je croise Guillaume Le Goff, je lui redis merci, et je lui redis à quel point c'était cool d'avoir donné la chance à un kids. Et après, en fait, il n'y a pas énormément de milestones à proprement parler, tu vois. Il y a eu j'ai eu des shoots qui ont un peu fait basculer la tendance, tu vois, mais pendant 2 ans, j'ai fait les campagnes Minelli. Donc, tu vois, d'un seul coup, t'es affiché dans tout Paris, dans le métro, tu vois, sur les bus, tu te balades en moto, tu vois. Ouais, c'est assez cool, tu vois. J'ai fait des expos chez OFR. Ça, c'est cool.
Et ça c'est... Enfin, raconte-nous déjà comment ça se fait, en fait. Enfin, OFR, comment tu le décroches, comment tu le débloques, enfin, comment tu le...
Pareil que pour chez Clark, j'arrive avec ou un book ou un portfolio ou tu vois une tablette maintenant, je pense. Et tu dis bonjour, je suis gentil, j'aimerais bien faire ça, si ça vous intéresse. Et de temps en temps, ça marche pas. Et puis là, pour le coup, moi, ça a marché là-dessus.
C'est aussi simple que ça. En fait, il faut juste demander.
Ah oui, il faut demander. Il faut être poli, arriver à l'heure, être gentil, pas avoir peur de recevoir un non. Et non, il faut demander. Ouais.
Très bien. Et il y en a eu trois depuis chez OFR.
Il y a eu trois expos. J'ai fait deux bouquins chez OFR, parce que c'est quand même une très bonne librairie que j'aime beaucoup et une bonne galerie. Et là, je prépare un prochain bouquin sur une île qui s'appelle Pantelleria, qui est mon île favorite en Italie. Et donc j'ai hâte parce que ça fait bien 5-6 ans que j'ai pas fait de bouquin.
Comment t'as drivé ta carrière? Est-ce que tu l'as drivé ou est-ce que tu t'es laissé couler?
Enfin, je me suis totalement laissé couler. Je suis pas du tout carriériste. Je suis pas du tout commerçant dans mon idée. Tu vois, je suis pas du tout entrepreneur dans l'idée. Je suis vraiment. Je me considère plus comme un artisan. Tu vois? Où on m'appelle pour des jobs. Si tous les critères sont bons, je le fais. Mais j'ai pas une liste de marques ou de magazines avec lesquels j'aimerais bosser, où j'envoie des newsletters, ou tu vois. Je me laisse porter. Je rencontre des gens, ils ont envie de bosser avec moi ou pas. S'ils ont pas envie, peut-être qu'ils voudront plus tard, tu vois. Donc j'ai toujours eu de la chance, j'ai toujours bossé, tu vois, parce que photographe, t'as des très grands photographes qui gagnent extrêmement bien leur vie. Après, t'en as comme moi ou qui marchent bien, mais t'en as plein qui galèrent, tu vois.
Qui arrivent pas à avoir des clients, qui arrivent pas à choper des clients. Tu vois, ouais.
Et moi, j'ai eu la chance de vraiment...
Quel est ton secret ?
Quel est mon secret ? Être gentil, arriver à l'heure, répondre aux mails dans la minute, pas avoir trop d'ego, je pense. Parce que, mine de rien, on reste des mercenaires. Bah, c'est un mot fort et agressif, mais moi, quand une marque me contacte, c'est parce qu'elle aime ce que je fais, mais les images, à la fin, c'est pour elle, tu vois. Donc, si elle me dit... qu'elle veut shooter telle fille, par exemple, et que moi, cette fille-là, je l'aime pas trop, bah c'est pas grave, je vais donner mon avis, mais après, je vais pas avoir d'ego, parce que le but, c'est leur image à la fin, tu vois. Et beaucoup de photographes sont pénibles là-dessus.
Moi, j'ai pas envie de shooter cette meuf. Enfin, j'ai pas envie de shooter cette fille.
Non, c'est genre, bon, bah si on shoote cette fille, ou si on shoote dans Paris et pas à Ibiza, je le fais pas, tu vois. Alors que moi, je m'adapte, je pense que c'est une de mes forces.
C'est
que je m'adapte.
Ouais, c'est un peu l'humilité, quoi. Ouais. Dire, OK, low profile, je suis au service de la marque.
Ouais, c'est ça.
Ouais. D'ailleurs, est-ce que tu... Alors, j'ai l'impression que c'est pas du tout calculé. Enfin, rien n'est calculé, finalement. Mais tu fais quand même des choix, d'une certaine manière. Ou est-ce que tu n'attires que des gens qui te permettent d'avoir une carrière cohérente? Est-ce que c'est un mix des deux ou est-ce que ça t'arrive de refuser? Ma question, c'est surtout ça. Est-ce que ça t'arrive de refuser certains trucs?
Alors, je dis rarement non, même si... je vais pas le dire, parce que je devrais pas le dire, mais même s'il y a un tout petit budget, tu vois, je vais pas dire non, je suis à temps par jour. Je vais souvent accepter parce que ça me permet de rencontrer des gens qui vont peut-être m'amener d'autres choses, tu vois, ou même sur un shoot, même, tu vois, je vais apprendre des nouvelles choses. Ça, c'est bien.
C'est quoi un petit budget?
Tu veux vraiment qu'on parle d'argent? Ça dépend. Moi, je ne suis pas en agence. J'étais en agence avant et je ne le suis plus.
Pourquoi?
Parce que je suis parti vivre à New York à un moment, donc j'ai arrêté mon contrat avec l'agence que j'avais à Paris. Et puis en revenant, tout de suite, ça a bien bossé. Et donc, je n'ai pas eu le besoin d'avoir une agence, mais on en reparlera peut-être. Petit budget, bah, je sais pas, ça dépend. C'est... Je sais pas, ça peut aller de 1000 euros par jour. Après, tu vois, t'as la retouche, donc ça dépend si c'est facturé ou pas. Et voilà, je sais pas comment ça donner mes tarifs, mais
ouais, bien sûr, ouais.
C'est un peu compliqué.
Mais je trouve que c'est quand même un point important parce qu'il y a plein de jeunes entrepreneurs qui nous écoutent. Et moi, je me suis rendu compte avec Réuni,
ça coûte cher.
Que ça coûte très cher de faire des images, mais en même temps, c'est primordial. Si t'as pas des bonnes images, enfin, quand tu vends de la mode, tu vends de l'image, quoi. Et encore plus à l'ère d'Internet. Les gens ne voient pas le produit, donc si les images, elles sont pas ouf, ben, tu vends rien, quoi.
C'est l'opium de la marque, les images.
Exactement.
T'es obligé d'en avoir.
Et il faut en faire beaucoup, en plus.
T'es obligé d'en avoir 2-3 par jour, parce qu'il faut poster énormément. Et ça, je pense que c'est une force d'adaptation aussi, c'est que. Avant, les photographes, ils faisaient une campagne sur 4 jours. Avec les 2 images par jour, vraiment bosser, machin, tu vois, c'était ça. Avec 3 jours de repérage, tu vois, à Miami, tu vois, donc c'était payer 400 000 balles, tu vois. Maintenant, je pense qu'il faut, et c'est ce qu'on fait, hein, je pense qu'il faut vraiment s'adapter et arriver à faire dans un lookbook, tu vois, quand tu fais un lookbook, généralement, tu fais 30 looks par jour, à peu près. Mais tu vois, 30 looks par jour, c'est énorme. faut entre le maquillage, la pose déj, la fille qui change entre chaque look, t'as un temps de... T'as 10 minutes par look, tu vois. Et faut se balader ou dans Paris ou à Ibiza, par exemple, tu vois. Et donc, tac, 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 tac. Il faut être... Ouais, mais la marque a besoin de tellement d'images pendant la saison. Pendant toute la saison, tu vois. Mm-hmm.
Et justement, on parlait d'argent, d'image, et que ça coûte très très cher, et que c'est primordial. C'est quoi toi, comment tu identifies ta patte ? La patte Bastien Latenzio, c'est quoi ?
Toujours très difficile de parler de soi, et encore plus de son travail. C'est quelque chose de, je pense, très naturel. Dans la façon de shooter. C'est-à-dire que j'ai pas 50 assistants, 50 lumières, j'ai un petit Contax qui marche très bien et je m'en sers tout seul. Et tu vois, par exemple, je vais prendre un sac et je vais le poser sur un bol de cerises, clac, clac, et pour moi, l'image, elle est là, elle est forte, elle suffit à elle-même. Et pareil avec des mannequins, c'est-à-dire... J'ai un peu envie qu'on soit pote dans l'idée, tu vois, et que je me balade avec ma pote ou ma meuf, tu vois, dans l'imagerie, et je la prends en photo comme si on était en vacances. Et ça, j'aime pas quand c'est trop posé, quand c'est trop réfléchi, parce que finalement, ça reste une image. Il faut que ce soit une bonne image forte, mais assez snapshot, comme on dit.
C'est très instinctif, finalement.
Ouais.
Et tu restes pas 3 heures sur une image, quoi.
Ah ouais, c'est... Non,
c'est bien. Si l'idée n'est pas bien, on passe à autre chose.
Ouais. On se décale.
On reviendra. Ouais.
Généralement, je fais pas trop de repérage parce que le but c'est de s'adapter par rapport où t'es, tu vois. Je fais pas trop de mood board.
Ouais. Tu travailles pas des images pendant des plombes.
Non.
Ouais.
Non, parce que.
Mais quand une marque vient te voir et te dit OK, moi je veux. J'ai besoin d'une campagne, voilà, j'ai besoin de faire une campagne, etc. Voilà, il te donne un mood, il te donne quoi, des références. Qu'est-ce qu'il te faut, toi, pour pouvoir faire des bonnes images?
Déjà, ils choisissent un endroit. Par exemple, tu vois, là, mes deux shoots de cette année, c'est Ibiza et Lanzarote. Tu vois, donc d'un seul coup, à part s'il pleut, le décorum,
a priori, ouais.
À part si tu choisis de shooter devant une usine, mais forcément, ça sera beau. Tu vois, donc ça, déjà, c'est le background et tu vois, est beau. Après, il me propose des filles. Et donc là, on choisit plus ou moins la fille ensemble. Et ça, c'est hyper important parce que le meilleur des photographes avec une fille qui rend pas bien, qui est pas photogénique, ça sera pas... Tu vois.
Tu la rencontres, la fille, avant ?
Plus trop maintenant. Avant, on faisait des jours de casting entier avec les filles assises dans le couloir, tu vois, qui présentaient leur book et machin. Et maintenant, non, ça se fait de moins en moins. Ouais, ça fait, je sais pas, peut-être 2 ans que j'ai pas fait de casting, quoi. Tu regardes les books, tu regardes leur Instagram.
Ouais, et tu vois si elle prend bien la lumière ou pas, quoi.
Ouais, et puis surtout en termes d'attitude. Parce que le but, c'est qu'elle sache marcher, parce que tu vois, d'un seul coup, il faut la shooter en train de marcher, qu'elle se retourne, et qu'elle fasse un sourire, qu'elle soit pas juste posée là comme une plante, mais tu vois.
Et ça t'arrive, j'imagine, de tomber sur des filles qui... l'énergie passe pas et où ouais. La fille ça fonctionne pas, comment t'arrives à la détendre justement?
Dès le matin quand elle se fait maquiller, je vais la rassurer en disant que ça va être cool, qu'on va passer une bonne journée, qu'on est content de la voir, qu'on l'a choisie, tu vois, etc. Faut qu'on devienne pote un peu instantanément, tu vois. Souvent je leur parle de ma meuf, tu vois. Comme ça, ça les détend. On va pas y avoir ce truc. Je vais essayer de les draguer, machin, tu vois. Donc déjà, je pense que ça leur fait un point en moins, parce que c'est quand même un stress pour beaucoup de filles. Et après, je sais pas, je suis assez protecteur, je pense. Tu vois, je suis le premier à penser, tiens, on a un peignoir au cas où elle est froide. On a une, tu vois, tu veux un café, tu vois. Ça, outre le moment où on shoot, je pense que c'est hyper important de la
pour ouais,
la avoir préserver, une... qu'elle se sente bien, tu vois. Ouais. Et après, quand je shoot, t'as ces fameuses phrases horribles de photographe. Amazing, you're gorgeous, amazing.
Ouais. Tu fais ça aussi?
Ouais. Parce que, en fait, ça, si tu dis rien.
Ouais, ça fait flipper, ouais.
Elle comprend pas.
Ouais.
Elle se dit ça va pas. Et outre la technique et ce qu'on parlait tout à l'heure, tu vois, c'est le plus important, c'est d'apprendre à parler à la modèle et à la diriger en quelque sorte. Et ça, je l'ai appris, je l'ai un peu plus maîtrisé il y a pas si longtemps que ça. Avant, je savais pas le faire, j'étais pétrifié. Oh mon Dieu, une Ukrainienne d'un mètre 80 toute la journée, je sais pas quoi lui dire, j'ai peur, tu vois.
T'étais, mais comment?
Parce que j'avais 25 piges.
Bah, ouais. C'est con, ouais.
Ça fait peur, tu vois. Et là, maintenant, c'est tout. Tu vois, c'est
hyper fluide.
Mmh. Ouais.
Mais c'est le métier, quoi.
Et une sur deux, à chaque fois, ça devient des potes.
Il faut la faire rire?
Ouais. Non, mais
c'est con comme question.
Non, c'est pas con, mais.
J'ai souvent l'impression que pour détendre les gens, il y a un côté, voilà, je fais 2-3 vannes et tout. Rire, ça détend vachement, quoi, tout de suite.
Et c'est un peu compliqué quand tu connais pas la personne de d'un seul coup faire une blague parce que peut-être ça, tu vois, peut-être ça va être moqueur alors que c'est pas le but, tu vois. Puis
parce que moi j'essaie de faire rire pour détendre les gens. Oui. J'arrive pas tout le temps, je fais pas toujours des bonnes vannes, mais je trouve que ça détend vachement les gens et j'imagine que toi c'est un peu la même chose, quoi.
Ouais, et il y a surtout un truc, c'est que tu demandes aux filles de rire souvent, tu vois, tu fais big smile. Et là, dans ce coup, c'est ha 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 ha. Et même si elles le font pour de faux, je pense que la sérotonine ou je sais plus quelle
oui, oui.
fonctionne. Et donc, le but, c'est qu'elles soient détendues. Mais de temps en temps, t'as des shoots qui se passent hyper mal.
Ah bon?
Ouais, il suffit qu'elle ait eu une mauvaise nouvelle le matin.
Ouais, qu'elle soit
pas mangée, qu'elle machin, ouais, truc.
Qu'elle soit bien mal réveillée et c'est foutu.
Et
quoi.
ça passe pas et t'essayes tout. T'appelles l'agent, tu lui dis on peut faire un truc là parce que ça passe pas. Il est déjà à midi, on a que des mauvaises images. Ça passe pas. Moi, ça m'est déjà arrivé qu'à la fin de la journée, elle se barre sans dire au revoir, tu vois. Parce qu'elle a dû, elle a passé une mauvaise journée. Et c'est dur.
T'as des mauvaises images. Et dans ces moments-là, comment tu fais? Il faut refaire ou
non.
T'envoies des images dont t'es pas trop satisfait?
Pour le coup, le client est là, donc il a bien compris que c'était pas de ta faute et que t'avais tout donné, mais.
Mais
tu trouves des techniques, tu lui as fait shoot un peu plus de dos, ouais. Tu vois. Bah, tu fais des crops. Tu vois.
Tu coupes la tête. Mais le.
Tu mets un masque de plongée.
Le truc. Mais d'où l'intérêt de quand même rencontrer les gens pour voir s'il y a un fit, quoi.
Ouais, mais quand.
En fait, on a une époque où on n'a plus le temps, quoi. J'ai l'impression.
On n'a plus le temps et. C'est un problème et j'espère qu'on en parlera à la fin. C'est que t'as la maquilleuse qui est à Berlin, la mannequin qui est en Islande et tu vois, d'un seul coup, elle est flyée la veille, voire le matin même, tu vois. Et donc, tu peux pas la rencontrer. Mais c'est vrai qu'on pourrait faire des zooms.
Tu vois, bah
ouais.
Ouais,
mais.
Pour checker, salut, ça va, on fait connaissance quand même, mais non.
Non.
Bah parlons-en maintenant, mais. Toi, j'ai l'impression que tu as vécu quand même cette période-là. Est-ce que dans les années 2000, début des années 2000, c'était quelque chose qui était beaucoup plus local, où on prenait plus de temps, etc. Ce que tu voulais dire, c'est quoi? C'est que on est à une époque où les gens viennent du monde entier.
Je pense qu'on était.
On était.
Bah là, pour le coup.
Ouais.
Pour le coup, tu vois, tu peux faire flyer personne, tu vois. C'est-à-dire, les photographes de Londres, bah, ils bossent en Angleterre parce qu'ils peuvent pas venir en France pratiquement, tu vois. T'as aucun photographe des États-Unis qui peuvent venir ici. Donc en fait, l'Europe shoot avec des Européens. Pareil pour les mannequins.
Avec des maquilleurs, ouais. Etc. Et ça, c'était comme ça dans les années quoi?
Ça a été comme ça depuis le début de la, tu vois, de la photo et des.
Et de la mode. Ouais.
Et de la mode un peu. Ouais, moi j'ai fait des. Aller-retour aux Maldives pour faire des marques de maillots de bain. Tu vois, on peut aller en Corse, quoi, tu vois.
Bah ouais.
Après, c'est très bien les Maldives, hein, tu vois, mais. Et là, je pense qu'il faut. Il faut aller moins loin, tu vois. Nice, on peut shooter des très belles trucs, tu as des très belles images en Provence. On n'est pas obligé d'aller à l'autre bout du monde, en Guadeloupe, avec la maquilleuse qui vient de je sais pas où, tu vois. Un truc un peu plus local, je pense que ça serait bien. Et c'est ce qu'on est en train de tendre vers ça, tu vois. Des équipes un peu plus réduites aussi, parce qu'on n'a pas besoin forcément de 70 personnes sur un set. Tu vois.
Tu fais de la mode, mais tu fais pas que de la mode. Mais pourquoi tu t'es quand même vachement spécialisé sur la mode? À quel moment ça s'est passé? Comment ça s'est...
Ah bah en fait, c'est vraiment les marques qui te contactent. Et la presse, c'est très très bien, mais c'est dur d'en vivre. Alors que, tu vois, l'argent se trouve dans les marques.
Et encore plus aujourd'hui.
Ouais, encore plus aujourd'hui, ouais. Et c'était quoi ta question ?
Pourquoi la mode ?
Pourquoi
t'es arrivé
sur la mode ? Parce que j'aime le vêtement déjà, de base. Tu vois, j'ai une affinité et ça m'intéresse depuis assez longtemps. Et j'aime les images de mode, tu vois. Je trouve que c'est beau, en fait, ça inspire. Je pense les gens qui les regardent, tu vois. C'est toujours dans des beaux endroits, avec des personnes intéressantes à regarder, et des beaux habits, tu vois. Ça donne envie d'aller de l'avant, je trouve. Même si j'adore les autres pans de mon travail, tu vois, je fais, un tiers de mode, un tiers de déco et un tiers de voyage, tu vois.
Déco, genre, c'est des objets, des intérieurs.
Ouais, c'est des natures mortes, c'est, tu vois, un tabouret pour Vuitton, c'est une galerie d'art qui a besoin que je shoote ses sculptures, tu vois. Je fais pas mal de choses comme ça et c'est hyper cool et ça me change de la mode, justement, tu vois. Et les objets, c'est aussi cool parce que t'as pas besoin de leur parler et tu peux les manipuler plus facilement. Donc, tu vois, t'arrives plus à atteindre vraiment ce que t'as envie. Alors, comme vu que t'as pas le facteur humain qui rentre en compte. Et les voyages, tu vois, j'ai fait pour Vacances, qui est un très beau magazine de voyage. Je suis parti au Nicaragua. Tu pars une semaine, tu shootes plein de trucs. Tu vois, c'est quand même assez extraordinaire d'avoir la chance de faire ça. Du Air France Magazine, où je suis parti au Vietnam. Et du AD aussi, tu vois. Et la mode, ouais, c'est vraiment, j'aime ça. Et j'ai beaucoup d'amis qui bossent là-dedans. Tu vois, j'étais 7 ans en coloc avec quelqu'un qui bossait chez Kitsune, maintenant chez Céline, tu vois, c'est ça.
Ouais.
Je suis dans le milieu, quoi. Il me plaît.
Qu'est-ce que tu ferais si tu faisais pas ça?
Alors, où je ferais de la ricotta en Italie sans téléphone, sans wifi. Je pense que la retraite, ça sera ça. Sinon, je pense que je ferais de la déco d'intérieur parce que j'aime beaucoup. Ça m'intéresse. Et j'ai un bon œil, je pense. Et je pense que je ferais ça. Mais le problème, c'est que je ne sais rien faire d'autre que la photo. Tu vois, j'ai un bac qui ne sert à rien et je sais faire de la photo, mais je n'ai rien appris d'autre. Je n'ai jamais travaillé dans un bureau. J'ai jamais travaillé dans un magasin, je sais pas vendre un truc.
Mais tu sais te vendre.
Non, mais je fais une grimace parce que... En fait, je suis sincère, donc tu vois, je vais jamais bullshiter les gens en disant « Ouais, je suis le meilleur, tu devrais bosser avec moi, tu vois, je suis là-bas. Si t'as besoin de moi, tu me dis. Je pense que je serais bon pour faire ça ou pour faire ça. » Parfois, on me demande de la vidéo et je suis vraiment pas le meilleur là-dedans, donc je leur dis. Mm. Tu vois, par exemple, mais...
Mais t'en fais un petit peu.
J'en faisais un peu. J'ai fait des clips. J'ai fait le clip de Yel à cause des garçons tectoniques.
Ah bon ?
Je sais pas si tu vois à quoi ça ressemble.
Ouais, si,
j'ai
très bien.
J'ai co-dirigé ça. Ouais. Et donc, c'est drôle. Mais ouais, non, je sais pas si je sais me vendre. Moi, je pense que je suis pas le plus mauvais là-dedans, mais je suis pas le meilleur.
Et juste pour revenir sur les agents, donc t'avais un agent, t'es parti à New York, t'es revenu, t'avais plus besoin. Enfin, ça se vendait tout seul.
Ouais, ça marchait bien, donc j'en ai pas recherché.
Voilà. Mais parle-nous de ton expérience, parce que je pense que j'imagine qu'il y a pas mal d'aspirants photographes ou de photographes qui se posent la question. Est-ce qu'il faut que je prenne un agent ou pas? Comment trouver le bon agent? Est-ce que c'est vraiment nécessaire de se faire... Parce que l'agent, au-delà de te trouver du business, il te coach aussi quand même.
Il te dirige dans ta carrière. Ouais.
Ouais, et c'est quand même ton your right ring, non?
Ouais.
C'est un peu ça quand même. Hein. Explique-nous ton expérience à toi.
En fait, les agents sont vraiment là pour te représenter. C'est-à-dire, ils vont dans les agences de pub, ils vont chez les marques, ils vont dans les magazines. Ils proposent ton book et ils disent, tiens, lui serait bien pour faire ça, lui serait bien pour faire ça. Tu vois, normalement, ils ont une sorte de roster avec des photographes qui sont assez différents pour pas qu'ils se mélangent. Et après, dès que ça fonctionne, ils négocient les prix, ils négocient les droits et ils prennent, tu vois, 20-25%. Mais... Ça paraît un montant important, mais en fait, c'est hyper rentable parce que si toi, la marque, t'avais appelé, t'aurais pas négocié autant, aussi bien. Donc finalement, tu vois, ça vaut vraiment le coup d'un point de vue financier. Après, t'as plein de marques qui veulent plus passer par les agents maintenant. Tu vois, les petites marques tu vois, qui se développent là parce que c'est trop compliqué, parce qu'ils négocient trop et ils préfèrent appeler en direct. Comme ça, ils ont directement le photographe, ils peuvent un peu plus s'en occuper, c'est plus simple. Mais l'argent te permet de casser un plafond de verre. Ce que moi, je tends dans les années à venir, là, c'est vraiment de trouver un bon agent, tu vois, pour aller taper des...
Du lourd. Des gros trucs, quoi.
Sans parler de Vuitton et Chanel, hein, mais tu vois, faire des marques qui font des vrais prints dans les magazines, hein, qui font de l'affichage, tu vois.
Passer un cap, quoi.
Ouais, t'as besoin de ça, parce que ces grosses marques-là appellent pas en direct. Parce que le problème, c'est que si je me casse la jambe la veille...
Pas d'assurance.
Comment ils font pour trouver quelqu'un d'autre? Alors que là, l'agent, paf, elle trouve un autre photographe. Elle
en se... deux.
Ouais. Mm. Et donc, ça les rassure, elles ont besoin de ça.
Mm. Et un bon agent, parce que tu les as tous rencontrés, en fait. Non, pas tous.
Non. Non, j'ai rencontré les miens.
Ouais.
Et j'ai rencontré Ingrid.
Qui est passée sur Entreprendre à la mode.
Et sinon, non, les autres, je les ai pas rencontrés, quoi.
Mais tu devrais les rencontrer. Juste pour tâter le terrain, non?
Ouais. Non, mais après, je t'envoie des mails, mais en fait, t'as les très gros agents. Eux, ils sont intouchables, tu vois. Et après, t'en as des petits où j'aime pas forcément le roster, donc j'ai pas envie d'être affilié à ça.
C'est quoi le roster?
C'est tous les photographes.
D'accord.
C'est la liste des photographes qu'ils ont.
Ok.
Je sais pas si c'est le bon terme, d'ailleurs, okay. Mais tu vois ce que je veux dire?
Ouais. C'est leur
liste, quoi.
Leur écurie,
c'est leur poulain,
quoi.
Ouais, ça. Exactement. Mais faut que je m'y remette, là. Parce que ça vaut le coup de passer à une prochaine étape.
Ouais. Et ça, le passage du cap, quand t'es photographe, c'est quoi? C'est un feeling? Tu le sens? Parce qu'il n'y a pas d'âge, finalement, où il faut quand même beaucoup d'expérience. Parce qu'il y a des gens très jeunes qui arrivent à péter le game vachement rapidement.
Ouais,
quoi.
Ouais. C'est assez énervant, d'ailleurs. Non, mais quand tu vois
des petits jeunes qui arrivent, qui ont 20 piges et qui pètent le game direct.
Ouais. Après, faut être bon dans la durée.
Ouais,
parce que le côté young kids, tiens, on va faire shooter lui. Parce qu'il est nouveau, il amène un œil frais, c'est très bien. Mais après, par contre, faut durer sur la longueur. Faut pas être un coup de bluff. Tu vois. Et ça, c'est dur d'avoir une carrière qui monte et qui stagne pas et encore moins qui dégringole parce que ça arrive souvent, tu vois. D'un seul coup. Tu te dis, tiens, j'ai trouvé ma patte, je vais faire ça. Puis finalement, tu t'embourbes dedans. T'es plus cool parce que tu traînes plus avec les kids. Et donc, tu vois, t'es un peu perdu.
Ouais, tu perds.
Tu deviens has-been et on t'appelle plus.
Et là, c'est le bad trip, ouais. Et d'ailleurs, comment tu fais pour te renouveler, toi? Et pas tomber dans le... Parce que t'as vite fait, une fois que t'as trouvé ton truc, c'est bon, quoi.
Ouais, ouais.
Schlac, schlac, schlac. Et tu te remets pas trop en question. Comment tu fais pour rester... au top de ton game, quoi.
Top de mon game. Alors, je sais pas si je suis au top de mon game, mais je pense que c'est rester ouvert, c'est regarder beaucoup de choses dans les magazines ou sur Instagram, mais tu vois.
Et comment tu fais, toi? Tu passes ton temps sur Insta et chez Yvon Lambert? Non, chez
OFR et Yvon Lambert, j'aime les deux. Hein, j'achète de moins en moins de magazines, malheureusement pour eux et pour moi, finalement. Parce que c'est les mêmes images que je trouve sur mon téléphone. C'est un vrai budget, à un moment. Et je les entache chez moi. Et tu vois. Ouais. Non, ouais, beaucoup d'Insta, malheureusement ou heureusement, je sais pas quoi dire. Mais non, ouais, tu regardes ce que les kids font, tu regardes ce que les très bons font. Et tu essayes de naviguer là-dedans. Et je pense que le succès, c'est de faire ce que tu aimes. Là, tu seras bon. Si tu me demandes de shooter... Tu vois, j'ai un exemple, c'est un moment, je me suis un peu perdu il y a 3-4 ans où une marque de montre m'avait demandé de faire des natures mortes, mais très à plat, très posé, très léché. Et ça payait bien. Et donc, je me suis un peu enfermé dedans, tu vois. Tous les mois, je faisais que ça, tu vois. Et d'un seul coup, tous mes autres clients m'ont pas retrouvé, m'ont pas compris. Et donc, m'ont abandonné, on va dire, tu vois. Et donc, je n'en prenais pas. Et donc, pour le coup, j'ai arrêté de faire ce genre d'image parce que c'était pas moi. Je le faisais un peu que pour les sous, tu vois. Et donc, je me suis remis en cause, je me suis remis en question. J'ai refait mon book, j'ai refait de nouvelles images que j'avais vraiment envie de faire. Parce que ce qui est compliqué aussi, c'est de créer ton univers via un site internet ou via un Instagram. Ça, par contre, il faut le réfléchir. Et c'est très compliqué.
Tu te fais accompagner là-dessus?
Non.
Tu passes un temps fou à... Une grosse réflexion sur le sujet.
En fait, c'est vraiment un work in progress permanent, tu vois. Que ce soit sur Insta ou sur mon site, une fois par semaine, je vais changer des images, mettre des nouvelles images, mettre des vieilles que je trouvais pas bien et finalement, je remets un peu de contraste et je les aime mieux. Et c'est dur parce que d'un seul coup, t'as une campagne qui est pas jolie mais avec un nom fort et tu dis tiens, je vais la mettre comme ça, les autres marques vont se dire tiens, il sait faire des shoots commerciaux. Mais finalement, c'est pas beau. Enfin, c'est pas forcément des images que t'as envie de montrer. Donc, entre montrer que des photos de tes meufs et de tes potes parce que c'est les meilleurs et que tu les trouves cool et montrer que des campagnes, il faut faire un entre-deux et ça, c'est assez dur de mettre le curseur.
Tu regardes les autres photographes ?
Bah oui. Un peu, ouais. Mais pas tant que ça.
Ouais.
Y en a deux, trois que je regarde, mais comme je disais tout à l'heure, je suis pas un nerd de la photo. Je suis pas 600 photographes sur Insta et je passe pas ma vie à regarder leur site. J'ai jamais eu ce besoin de sourcer, tu vois. J'aime bien avoir ma... Je pense qu'à force de trop regarder, on copie un peu. Et je sais pas, c'est, tu vois, j'ai pas forcément envie de tomber là-dedans.
C'est vrai que c'est le gros danger, ça. Regarder les autres... En vrai, faudrait pas regarder les autres, quoi. Mais en même temps, c'est ton taf et
ouais,
tu t'es obligé de regarder.
Il faut apprendre aussi, il faut savoir...
Ouais. Et comment, tu fais pour te nettoyer les yeux, quoi? Comment tu fais pour ne pas... Parce qu'en fait, en photo, j'ai l'impression que tu progresses en regardant beaucoup de photos et en faisant beaucoup de photos.
Ouais, en shootant surtout.
En shootant.
C'est là où tu apprends plus.
Plus qu'en regardant?
Ouais, je pense que les deux sont indissociables, hein, mais t'apprends à chaque... Bah, je parle pour moi, hein, mais moi, j'apprends à chaque image. Et je suis ravi d'apprendre à chaque image. Je me dis pas, je sais. Tu vois, le prochain shoot que je vais avoir... Je vais apprendre une nouvelle façon de parler à une fille ou une nouvelle façon de poser un sac. C'est un peu con, hein, mais c'est. T'apprends à chaque fois.
D'accord. Tout à l'heure, on parlait des marques qui n'osent pas forcément passer le cap et passer par un photographe professionnel. Surtout quand t'es une jeune marque, je trouve, parce que c'est des budgets qui. C'est quand même beaucoup d'argent, mais qu'est-ce que tu leur dis pour les convaincre, toi?
Ah, bah, je leur dis rien parce qu'en fait, non, mais vu qu'ils m'appellent directement, ils sont déjà conquis, j'ai envie de dire. Mais maintenant, je pense que là,
tout le monde a compris.
Je sais pas trop. Je me demande s'ils ont pas justement. Moi, une de mes peurs, c'est qu'on bosse beaucoup moins parce que l'assistant marketing avec un iPhone 12, bah, finalement.
Il fait des bonnes photos.
Ouais. Et l'un des drames, c'est que les photos à l'iPhone sont beaucoup plus likées sur Insta que nos photos pro. J'ai shooté une influenceuse qui a vraiment énormément de gens il n'y a pas longtemps. Et mes photos qui sont de la vie de tout le monde, que ce soit moi, elle ou d'autres gens, très très belles, marchent 3 à 5 fois moins bien en termes de likes que ces photos à elle en train de sortir la poubelle à l'iPhone.
Et est-ce que tu shootes à l'iPhone alors ?
Non.
Tu refuses ?
Je m'y refuse, ouais.
Ouais.
Comme c'est. Mais après, je trouve ça très bien les gens qui le font, tu vois. Je suis pas contre, même les.
Mais ça se fait des campagnes à l'iPhone ? Genre des photographes hyper renommés qui disent OK, bah, on passe le cap, quoi.
Non, parce que pour le coup, ils ont pas besoin, eux. Tu vois, ils savent se servir du matos. Donc, passer à l'iPhone, c'est. Ça n'a pas trop d'intérêt pour eux. Mais par contre, il y a des marques qui le font. J'ai vu Paloma Wool.
Oui.
C'est ça ?
Oui, Paloma Wool.
Qui, elle, est partie à Lanzarote. Et c'est limite elle qui a shooté les mannequins avec son iPhone. Et bah, pour le coup, ça ne marche pas trop mal, tu vois. Mais un photographe, ça sert aussi à résoudre des problèmes. Si sur un shoot, et bah, tu ne sais pas quoi faire et tu n'as pas l'œil pour faire ça, bah, le photographe, il va trouver des solutions. Et après, tu as tout le... Même, tu vois, même les shoots qui se sont faits par FaceTime et par Zoom pendant le confinement,
ouais.
Tu vois, je trouvais ça cool, mais c'est pas moi, quoi. Je préfère aller faire de la ricotta que de me lancer dans des shoots sur Zoom.
Ouais, c'est un bon programme.
Même si Jacques Mus, il a fait ça, c'était chambé.
Ouais, c'était cool.
Tu vois, avec Pierre-Ange, tu vois, par FaceTime et Bella Hadid, t'as gagné, quoi, tu vois.
Comment les photographes comment ne pas se faire ubériser, quoi, c'est un peu le truc, quoi. Comment ne pas se faire ubériser par les kids qui arrivent avec leur iPhone et...
C'est toute ma et notre réflexion du moment. Je pense qu'il faut qu'on s'adapte. Je pense qu'il faut qu'on soit
c'est quoi,
moins cher. Parce qu'on est
moins cher.
Cher
okay.
Je pense, tu vois. Qu'on ait beaucoup moins d'ego, qu'on soit beaucoup plus flexible. Moi, je le suis depuis assez longtemps, mais tu vois, par exemple, j'ai pas d'assistant. Donc déjà, c'est un budget en moins. C'est moi qui fais ma retouche. Donc comme ça, c'est un budget en moins et c'est un canal de communication en moins. C'est-à-dire, moi, il me parle directement. De la demande de devis jusqu'à l'envoi du WeTransfer avec l'HD, tu vois, par exemple. Faut arriver à shooter vite et faire, tu vois. Parce que si tu as 120 pièces et que tu peux les faire en 3 jours au lieu de 5, bah, tu vois, c'est quand même 2 jours de mannequin, photographe, maquilleuse, Airbnb, resto en moins sur un budget. Et donc, je pense que ça va être ça. Ça va être s'adapter d'un point de vue personnel et d'un point de vue budgétaire.
Mais c'est toujours plus avec toujours moins.
Un peu.
Non, mais c'est ça le truc.
Ouais, ouais. Ça me dérange pas tant que ça, moi. J'ai pas envie d'être un réac en disant non, on va continuer à faire 2 images par jour pour 50 000, sinon c'est rien, tu vois.
C'est quoi la suite des événements pour toi Bah, tu parlais d'un agent, péter le game, faire des coups et shooter pour Chanel et Louis Vuitton.
Ah oui, appelez-moi.
c'est quoi le futur autant d'un point de vue artistique que d'un point de vue carrière, quoi.
D'un point de vue carrière, c'est moi, cette progression là me va pour l'instant, tu vois. Je gagne ma vie comme il faut. J'ai un rythme de vie qui me plaît, c'est-à-dire je shoot 1 à 2 fois par semaine. Le reste du temps, je fais ou de la prod ou de la retouche. Je suis chez moi, je suis bien, tu vois, je suis pas stressé de devoir shooter tout le temps, d'avoir un shoot par-ci, un shoot par-là, un rendez-vous, tu vois, c'est...
Choisis, parce que ça t'arrive de refuser des trucs pour justement ne pas être en surchauffe?
Non, ça m'est jamais arrivé. Même quand je vivais, parce que j'ai vécu à New York, mais j'ai aussi vécu un an et demi à Marrakech, où j'avais un riad là-bas et donc je faisais des allers-retours pour shooter, et même là, j'ai jamais dit non. Un truc, c'est-à-dire où les marques venaient à moi. Tu vois, je faisais venir Vesterco, Active, par exemple, tu vois, qui sont venus, on a shooté tout un lookbook, tu vois, ils dormaient à la maison, on partait dans le désert shooter. C'était charmé, tu vois. Et sinon, ouais, je faisais des allers-retours et je venais à Paris et je shootais à Paris. Non, j'ai jamais dû dire non. Ce qui est bien.
Pourquoi partir à New York? Pourquoi partir à Marrakech? C'était des opportunités de vie, c'était quoi?
Ouais, c'était ça. New York, en fait, j'étais en coloc avec mon ami Max depuis très longtemps. Et lui, il est parti vivre avec sa copine. Et donc, d'un seul coup, il fallait rendre l'appart. Et ma meilleure amie partait vivre à New York. Je lui ai dit, bon, bah, j'ai plus d'appart. Bah, je lâche mon appart, donc autant profiter. Et donc, j'ai fait 6 mois là-bas. C'était chambé. Sauf que d'un point de vue carrière, j'ai pas eu le cran. Je me suis dit, ça va être trop dur de recommencer à re-avoir des milliards de contacts. Et puis là-bas, t'as 150 millions de photographes. Donc j'ai fait 6 mois et puis je suis rentré à Paris. Ouais.
T'as fait 2-3 jobs quand même là-bas?
Ouais, pour un petit magazine, tu vois, ça c'était bien. Et Marrakech, j'étais parti parce que j'avais pas envie de passer, c'était en 2017 je crois. J'étais parti avec ma copine de l'époque pour fuir le froid parisien de l'hiver et on devait y rester que 3 mois, faire tu sais, novembre, décembre, janvier. Et puis finalement, on a trouvé un truc à louer qui était vraiment pas cher. Et donc, moi je suis resté 1 an et demi et je faisais des allers-retours. Et, tu vois.
Et alors, c'est comment la vie à Marrakech?
C'est une vie d'expat déjà, tu vois, t'es pas un local malgré tout. T'as un joli endroit pour pas cher et il fait beau tout le temps, donc c'est assez agréable.
Et dans ta carrière, c'était quand même des allers-retours parce que le taf qui se fait quand même à Paris, quoi.
Oui et non. T'as pas mal de. Mais tu vois, par exemple, mes 2 shoots de cette année, mes 2 gros shoots de cette année, hein, j'en ai eu d'autres, heureusement, c'était Ibiza et Lanzarote, tu vois. Donc finalement, Paris, tu shoots pas tant que ça.
Et justement, c'est la grande question que tous les bobos parisiens se posent en ce moment, c'est est-ce qu'on peut vivre loin de Paris et avoir une carrière dans la mode, dans l'image, dans la photo, avoir une marque de mode, etc. Comment tu vois le truc, toi ? Ouais, oui.
Bah moi, Marrakech, c'était totalement rentable.
Ouais, mais tu avais le réseau avant.
Ouais.
Tu l'as entretenu, etc., etc. Donc.
Ah là, si tu démarres.
Ouais, from scratch, bon, ah ouais, non, faut, à Paris, faut, je pense.
Ouais. Ouais, ouais.
Ouais. Mais une fois que t'as le réseau.
Ouais. Et que t'as le et que t'as un bon book et que les gens ils t'appellent, tu vois. Parce que si ton téléphone il sonne pas, bah tu seras.
Il faut remonter à Paris.
Ouais, tu seras bien dans le perche, hein, mais bon. Ça va marcher, mais.
Ouais.
Non, c'est. Je pense que tu peux. Après, le problème, c'est que tu fais des allers-retours en avion et c'est pas génial. Mais tu vois, quand tu vas à Lanzarote ou à Ibiza, bah, finalement, que tu pars de Paris ou que tu partes de. Je sais pas où t'as envie de.
De vivre, Genève hein. Ou de. Ouais. Peu importe. Ouais.
Non, mais c'est possible, hein, je pense. T'as plein de photographes qui habitent à Ibiza. Ouais. Et qui, pour le coup, font venir des gens. Tu vois. Qui sont spécialisés en maillot. Et donc, toutes les marques de maillot viennent, dorment un peu chez eux. Tu vas shooter à la plage. T'as gagné. Hein.
Mmh. C'est aussi simple que ça.
Je pense que ça prend du temps. Non, mais je pense que ça prend une bonne dizaine d'années pour te faire un bon réseau, un bon book. Et à partir du moment où les gens ils te connaissent, là, tu peux te permettre de t'éloigner un peu, tu vois, je pense.
Le réseau, justement, est-ce que ça s'entretient ? Enfin, comment tu l'entretiens, toi ? Est-ce que tu sors beaucoup ? Enfin, explique-nous comment tu fais pour avoir un bon réseau et avoir les bonnes connaissances, quoi. C'est très naïf comme question.
Non,
mais...
pas du tout. En fait, je suis pas du tout, pardon pour l'expression, mais école de commerce, tu vois. Donc, j'ai pas du tout cette réflexion réseau. Il faut que je me crée un réseau, il faut que je me crée des contacts. C'est vraiment, ça se fait par le feeling, et tu vois. Et en fait, c'est un truc assez simple, mais un peu impossible à recréer. C'est quand t'as 20 ans, et bah, tu sors, et tous tes potes, et bah, ils sont stagiaires dans des petites marques. Et puis d'un seul coup, c'est les directeurs marketing et les responsables de communication, et ça reste tes potes. Et tu vois, et eux, ils te proposent des jobs. Ce genre de truc, par exemple.
C'est ce qui t'est arrivé.
C'est ce qui m'a arrivé. Et t'as tous les gens avec qui on allait faire la fête et on avait 10 balles en poche, et bah maintenant ils sont directeurs de création chez telle ou telle marque, tu vois. Donc
ouais,
ça par contre, tu peux pas le recréer.
Bah ouais. Il faut être né dedans. Enfin, il faut être né avec avec ces bonnes personnes.
Ouais. Et il faut être un peu cool. Tu vois, et ça, tu peux pas le créer, quoi. C'est un peu pédant ce que je viens de dire. Mais...
la coolness.
Ouais, non, mais ça, tu vois, c'est.
Ouais, non, mais
tu... c'est ça aussi, tu vois. Il faut être cool, faut que les gens aient envie de bosser avec toi.
Il faut donner envie, c'est clair. Et comment tu donnes envie, toi ? Ça, tu sais pas. T'es né avec.
Non, pour le coup, tu vois, je suis assez. Timide,
non, mais c'est vrai que t'es un petit ancien, quoi. Je veux dire, t'es un petit gars de la,
puis
de la province.
Mes parents sont pas du tout là-dedans.
Ouais.
Je pense qu'il faut aimer les gens, il faut avoir envie de bosser avec eux, il faut avoir envie de bosser surtout.
Ouais, voilà, c'est vrai.
Non, mais ce confinement, j'ai pas bossé à part deux trucs perso. Putain, j'ai qu'une envie, c'est.
Tu vois, bosser.
Ouais. Pendant deux mois, je bosse pas, ça veut dire que je crée pas. Je suis pas un artiste, hein, mais tu vois, en tant qu'artisan, entre guillemets, créer, moi, c'est ce que j'aime, quoi. J'aime shooter, j'aime retoucher, j'aime envoyer des mails de taf, tu vois, c'est.
Ouais, t'as...
C'est pas une tannée, quoi.
Ouais. Ouais, tu kiffes.
Oh là, faut que j'aille shooter demain, quoi. C'est genre. Dididididi, trop cool.
Ouais, c'est l'excitation qui monte.
Ah ouais.
Comment t'as vécu justement ce confinement-là, ce Covid, parce qu'on est encore un peu dedans, mais comment tu l'as vécu quand tout s'arrête du jour au lendemain on le disait, enfin, c'est deux mois où tu vends rien, quoi.
Ouais, c'est ça.
C'est gros stress quand même. Hein.
Ouais, c'est gros stress. Après, en tant que freelance, je pense que c'est une bonne chose à faire, c'est toujours avoir 2-3 mois de côté. Moi, ça a toujours été mon truc. J'ai toujours 2-3 mois de côté que si à un moment, je le dépasse pas, tu vois. J'ai toujours une sorte de parachute. Et après, on a eu la chance d'avoir, et je le dis, on a eu la chance d'avoir les aides.
Ouais, c'est vrai. Ouais.
Mine de rien, 1 500 par mois sur 3 ou 4 mois, bah, ça permet de payer le loyer si t'as rien, tu vois. Donc, c'est quand même, c'était une bonne chose. Et après, comment je l'ai vécu ? J'étais à la montagne avec mon chat, donc j'ai eu de la chance là-dessus. Et je pense que c'est une... C'était une façon aussi de se dire, bon, bah maintenant, il faut un peu changer. Tu vois, la façon de... Même la façon de shooter, tu vois. Va falloir qu'il y ait moins de gens sur un set. Va falloir réduire les budgets parce que là, les marques, elles ont perdu...
beaucoup 70%
d'argent. Ouais. De, tu vois, de leur CA ou... Ça dépend pour qui, tu vois, mais ce genre de trucs. Ouais, à un moment, va falloir qu'on soit très flexible. Et donc, moi, ça m'excite un peu, en fait, les contraintes. Ça, et oui, non, ça me stresse un peu que ça... Ça, en fait, ça me stresse à moyen terme. Je me dis, là, cette année, ça va être compliqué. On va beaucoup moins shooter. Et c'est triste. Mais ça va revenir. Et je pense qu'à partir de l'année prochaine, on va recommencer à shooter. Donc,
Et tes collègues, tes homologues, comment ils l'ont vécu ? Tout le monde le vit de la même façon ? Tout le monde se remet en question ? Tout le monde... De toute façon, ils n'ont pas le choix, non ?
Ouais, non, non. À un moment, c'est la girafe, hein, tu vois. À un moment, il y a plus rien à manger en bas. Bah, faut s'agrandir le cou pour aller manger en haut de l'arbre. Hein. Et l'humain a une force d'adaptation extraordinaire. Et je pense que tout le monde s'en est rendu compte. Et donc, non, on s'adapte. On s'adapte. Et comment ils le vivent ? Je pense qu'il y en a qui n'avaient pas mis d'argent de côté. Donc là, c'est un vrai stress pour eux. Et ils ont peur qu'on ne les rappelle pas à partir de maintenant. C'est un peu la panique. C'est un peu la panique, ouais. Mais ça va aller. Je pense qu'il faut serrer les dents et puis on va avoir un an un peu compliqué. Mais de toute façon, on n'a pas trop le choix. Il faut s'adapter. Moi, j'ai pas fait de... Par exemple, j'ai pas fait de démarchage, tu vois. J'ai renvoyé deux, trois mails à mes clients habituels, tu vois. Mais par exemple, j'ai pas fait une campagne de newsletter ou des pubs sur Insta pour montrer que j'existe, tu vois.
Il y en a qui l'ont fait.
Il y en a qui l'ont fait et ils ont eu raison, hein, tu vois. Je les critique pas, mais...
Mais ça marche, ça, faire des pubs sur Insta
je
quand
sais
t'es
pas.
Photographe, c'est ouf. Enfin, ça paraît...
Ouais, tu montes ton boulot. Puis en plus, c'est marqué post sponsorisé, donc je trouve ça...
Ouais, c'est un peu chiant. Ouais.
Non, mais je me suis dit que ça servait à rien d'envoyer des mails à tout Paris en disant...
J'existe.
Bonjour, oui, je suis revenu à Paris, je suis dispo pour shooter, ce genre de trucs. Parce que je pense que les marques...
Ça les saoule.
Ouais, c'est de la drague, tu vois. La relation photographe acheteur d'art ou à responsable marketing ou communication, c'est de la drague. C'est une forme de drague, tu vois. Faut qu'ils aient envie de t'appeler.
Et comment tu fais ça ?
Bah, faut se laisser désirer. C'est ça un peu le... C'est ça qui est compliqué, c'est que quand t'es une marque, bah, tu vois, tu communiques le plus possible. Quand t'es un photographe, je pense que le mieux, c'est de limite de moins communiquer, comme ça, ils ont envie de bosser avec toi, ça, tu vois. Mais c'est dur de se freiner à pas envoyer des mails. Parce que tu vois, tu te dis, tiens, j'ai envie de bosser, tu vois. Qu'est-ce que je pourrais faire en me réveillant ce matin ? Qu'est-ce que je pourrais faire pour bosser plus ? Et bah, c'est pas forcément démarcher. Ce qui est bizarre.
Non, mais après, tu fais une expo chez OFR. Non, est-ce qu'il n'y a pas aussi ce côté... Enfin, la vraie question, peut-être, c'est de dire, ok, est-ce que c'est... Ces photos, c'est une photo d'art ou c'est une photo... Je montre une photo à mon mur que j'ai acheté à Bastien. C'est de l'art ou est-ce que c'est du commercial
Alors, c'est pas du commercial, ça c'est sûr. Je me considère pas comme artiste, tu vois. Faut remettre les choses en place. C'est des photos perso que je prends durant mon temps libre, on va dire, et que j'aime beaucoup. Mais tu vois, c'est pas une réflexion. Je me suis pas dit, tiens, je vais faire ce genre de... Tu vois, c'est, je prends ces photos, je les aime pour moi. Chez moi, j'en ai 40 au mur, tu vois. Et donc, je les vends. Et tu vois, je vends des prints. Et pendant le confinement, j'en ai... Ça a permis de mettre du beurre dans les épinards qu'il n'y avait pas, tu vois. Mais non, ça, c'était cool. Et après, tu vois, tu as eu plein de... AD, par exemple. Le magazine AD, ils ont fait une journée, une photo... d'un photographe sur leur compte Insta, tu vois, et ça te ramène du trafic, ce genre de choses.
Ouais. Et ça peut se cultiver, ça peut aller se chercher. Parce que voilà, au FR, tout à l'heure, tu le disais très bien, t'as été tapé à la porte en disant, voilà mon projet. Et ce genre de choses, quand t'es un photographe, il faut le faire, quoi. Enfin, si tu veux avoir plus de clients.
Ouais. Mais avec les galeries, je pense que c'est les galeries... Ils sont toujours contents de rencontrer des gens. Les marques, ça les saoule vite qu'on vienne les démarcher pour bosser, tu vois. Parce que quand tu vas voir une galerie, c'est pas pour gagner de l'argent, c'est pour t'exposer et montrer ce que t'aimes. Là, quand tu vas voir une marque, la finalité, c'est quand même de bosser, donc d'avoir des sous, tu vois. Donc, il y a le démarchage est compliqué, je pense. Je le conseillerais pas.
Ouais.
Si c'est le.
Ouais, mais question, c'est vrai que moi, je vois avec Réunis, on est souvent sollicité. Enfin, il y a beaucoup de gens qui nous. Enfin, beaucoup de gens. Il y en a au moins un par semaine, quoi, qui nous écrit en disant voilà, je suis photographe, machin. Et c'est vrai qu'en fait, ça te saoule. Enfin,
t'as plus envie de.
D'aller chercher quelqu'un, tu vois.
T'as vu tel boulot sur Insta et tu te dis, tiens, j'ai envie de bosser avec lui.
Bah ouais, de ouf.
Alors que le mail, ça t'énerve. Bah, je sais pas si ça énerve, mais c'est.
Non, mais voilà. En fait, le truc, c'est que.
Faites pareil pour moi quand je reçois des mails de maquilleurs ou de stylistes.
Bah ouais. Le truc, c'est qu'en fait, tu as déjà 50 mails par jour dans ta boîte mail, voire 100 ou 200. À chaque fois que tu es démarché par qui que ce soit, tu te dis, bah.
Je vais me faire plumer, quoi.
Ouais, ou en tout cas, il faut prendre le temps de répondre, etc. Parce que tu veux répondre à tout le monde, tu veux pas être un salopard, etc. Et ça te prend du temps, et mine de rien, c'est un peu chiant, mais je sais pas, c'est une réflexion très personnelle. Très bien. Non, j'ai deux questions que j'avais envie de te poser encore. C'était le futur de l'image dans la mode.
Ouais.
Parce que mine de rien, c'est quand même un monde d'image, ça va très très vite. Tout à l'heure, on parlait d'ubérisation des photographes.
Ouais.
On parle aussi, en ce moment, voilà, les Fashion Week, elles se font en mode digital.
Ouais, c'est très beau ce qu'a fait Chanel d'ailleurs.
J'ai pas du tout regardé encore.
Il devait shooter à Capri, parce que la collection Cruz, c'était Capri. Bah, c'est Capri. Et ils ont pas pu aller à Capri, forcément. Et donc, ils ont shooté en studio avec Karim Sadli, je crois. Et ils ont recréé Capri en studio, parce que Chanel, ils savent faire des décors, hein, mine de rien. Et bah c'est super, ouais. Ils ont pas fait, ouais. T'as et les photos et de la vidéo avec une sorte de petit catwalk sur 5 mètres où la fille se retourne, comme ça tu vois vraiment le produit et les acheteurs peuvent acheter. Et franchement, ça
fonctionne,
tu vois.
Ouais. Ouais. Et d'après toi, là, voilà, parce que ça va très très vite, mais je pense que ça va accélérer pas mal de choses, cette crise du Covid-19, mais le futur de l'image, ouais, ça sera quoi? Comment est-ce qu'il faut montrer la mode demain, quoi, quand on peut pas faire de défilé, qu'on peut pas montrer les vêtements, etc.
Je pense déjà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'images en permanence. On est saturé de stories, de posts, de machins, et finalement, j'ai l'impression que c'est illisible. Que tu vois, même une marque, ça passe à travers 50 000 choses. Donc, je pense qu'il faut être responsable là-dessus et arrêter de déverser autant d'images sur les gens. Parce que, de un, le message se perd. Et de deux, ça sert à rien, tu vois, à un moment. Donc, je pense qu'il faut faire moins d'images. Bah, tu vois, arrêter de faire 50 000 stories, de filmer des choses pour rien. Mais faire des bonnes images marquantes. Et s'en servir peut-être plus, tu vois, mais...
Toujours la même, plusieurs fois.
Après, je sais pas comment communiquer, mais je pense qu'il faut faire des bonnes images fortes et pas en faire 500 000 mauvaises.
Ouais. Mais en même temps, le truc, c'est que si ça s'est emballé, c'est parce que l'algorithme d'Instagram, il montre la nouveauté. Plus t'en fais, plus t'es vu, en fait, j'ai l'impression. Et c'est...
Cassons l'algorithme.
Ouais, pétons l'algorithme. Non, mais c'est insupportable, en fait. C'est parce que... Même si tu arrêtes de poster pendant une semaine, tu seras moins bon à la reprise. Tu vois.
Ah ouais.
C'est insupportable.
Ah oui, je sais pas.
Et c'est pour ça que des marques postent.
Plus tu postes, plus t'es vu dans le ratio.
Ouais. Plus tu postes, plus tu postes, plus t'es vu.
Ok.
Donc ça, c'est chiant.
Je sais même pas. Oui.
Mais je suis d'accord avec toi. Moi, j'aimerais bien. Je me dis que tu as même la responsabilité quand tu es une marque. Entre guillemets responsable, et toutes les marques devraient être responsables, arrêter de déverser tout ça sur les gens, quoi. Ça rend fou.
Oui, et puis tu vois, on parle beaucoup d'environnement et tout ça, et je pense qu'il faudra aussi que toutes les marques se mettent à faire du stockage à froid et arrêter d'avoir tout sur du cloud, parce que finalement
oui, c'est vrai.
Ça consomme, je crois, 5 à 10% d'énergie mondiale, le cloud. Donc,
mais non.
Ouais, je suis pas un pro, hein, mais... J'ai pas envie de me prendre des commentaires bizarres, mais... et à un moment, toutes ces stories, tous ces posts, bah, ils sont stockés quelque part. Et je pense que ça va être notre prochaine responsabilité. D'être plus responsable là-dedans.
Moi, j'avais une question un peu plus pragmatique sur comment t'organises un shoot, en fait. Parce que pour tous les... Ouais, non, mais c'est vrai. Ouais. C'est comment tu fais... tout à l'heure, on disait voilà, 30 looks dans la journée. Comment tu fais pour être hyper efficace? Comment tu prépares, en fait, ta journée de shoot pour faire tout ce que tu dois faire, tout ce que tu veux faire?
Tu fais un planning où tu commences à 7h, de 7h à 7h30, tu vois, call time à 7h, ouais. Donc on arrive à 7h. La fille se fait maquiller jusqu'à 7h30, à 7h30, tu vois, premier habit, machin, et après, bah, t'as shooté les looks ou à plat ou sur un stockman avant. Et t'essayes de pas les imprimer parce que c'est mal, mais sur ton iPhone, t'as look 1, look 2, look 3, look 4. Et donc comme ça, tu perds pas de temps à dire, tiens, bah, est-ce qu'on essaierait telle chemise avec tel pantalon? Non, tu sais exactement ce que tu vas shooter quand. Et donc en fait, t'as chaque demi-heure, t'as une, tu vois, un look par exemple.
Ouais, donc il y a un gros travail de préparation avant, quoi.
Un bon travail de préparation, et ça pour le coup, c'est plus de la logistique. Mais moi, ça m'intéresse aussi d'être...
Toi, tu fais les looks là-dessus? Tu fais les looks ou t'as toujours un styliste avec toi?
C'est la styliste de la marque, souvent. Tu vois, c'est pas moi qui propose un styliste, c'est la marque qui a un styliste, et c'est lui ou bah c'est elle ou lui qui va faire les looks en amont, prendre des photos et va les mettre à 10h, 10h30, tu vois. T'as ça, après il faut prévoir la pause déj, qui est souvent beaucoup trop longue à mon goût. Moi, je pourrais manger un sandwich en 5 minutes et ça m'irait, mais là on se pose une heure et on papote, donc on perd du temps. Et souvent faut changer de, tu vois, par exemple quand on shoot à Ibiza ou à Lanzarote, ce genre de choses, bah faut, tu vois, tu shootes pas tout le temps devant le même cactus, tu vois.
Bien sûr.
Donc faut se déplacer, donc tu vois, faut avoir les looks sur des cintres, dans le camion, tu vois, c'est tout un petit bordel sympa.
Mais c'est un côté un peu ingrat quand même, mine de rien, quand tu fais une journée de shooting, non?
Quel niveau?
En termes de logistique, etc. C'est, je trouve que c'est dur. Enfin, en fait, je te dis ça parce que je sors d'une journée de shooting, ouais. Je suis épuisé.
Ah oui, c'est à la fin de la journée, t'es crevé. Hein.
T'es crevé. Et je trouve qu'il y a un côté.
Et t'as mal au dos.
Ouais, t'as mal de partout, quoi.
T'as mal au dos parce que t'es baissé. Parce qu'il faut que t'aies au niveau du nombril de l'autre pour shooter, pour avoir un bon ratio. Donc tu passes ta journée courbée et tous les photographes ont mal au dos. Je dénonce.
Et très bien. Donc organisation. Et après, derrière. En termes de... ouais, t'as toutes tes images sur ta petite disquette, sur tes deux disquettes?
Absolument pas, ouais. Parce que moi, je shoot en argentique. Moi, je shoot en péloche.
Ah ouais, j'ai pas du tout capté ça. Ok.
Après, je sais faire du numérique, hein, mais j'en fais quand ça sert à rien de faire de l'argentique, mais toutes les images sur mon Instagram et sur mon site, c'est de l'argentique. Et là, par exemple, t'as une péloche par look ou deux péloches par look, tu vois.
Et t'as aucun backup? Donc c'est la grande découverte à chaque fois.
Ouais, et ce qui est très agréable, comme ça le client ne passe pas sa journée à regarder l'ordi.
Ah, habile, ouais.
Ça c'est très très bien parce que sinon tu perds un temps fou.
Le mec, ouais, il veut tout voir.
Ouais. Mais par exemple, tu vois, pour les campagnes, les grosses campagnes, je les fais en numérique avec un vrai appareil numérique, un ordi, un assistant, t'as quatre personnes derrière le retour qui disent c'est bon, là on change, tu vois. Ça c'est autre chose, mais pour les lookbooks, que je fais, ouais, je l'ai fait en argentique et c'est mille fois plus beau, tu vois. Et là, quand je rentre ou de ma journée de shoot ou de mon voyage, je sais pas où, je passe déposer les pellicules. Eux, ils me les développent, ils me les scannent et ils m'envoient un WeTransfer avec toutes les images. Et là, j'enlève les yeux flous, les yeux fermés, la photo floue, le je suis en train de manger un truc et ça va pas. Je les envoie au client. Le client choisit les 2-3 images qu'il aime bien par look, et après moi je les retouche, moi je les renvoie, et si ça leur va, bah c'est très bien, sinon je refais je me rajoute du contraste ou, tu vois, ouais. Je fais ma petite tambouille et voilà.
Et ça c'est hyper différenciant, hein, parce qu'il y a plus grand monde qui shoot en péloche comme tu dis.
Bah quand même,
ouais c'est encore un truc un peu mainstream. Pas trop mainstream, mais encore, ça existe, quoi.
T'as pas mal de gens qui font encore. Par contre, t'as des gens qui sont passés au numérique, tu vois. Jürgen Teller, qui faisait les campagnes Céline.
Tellement beau.
Ouais, sublime. Et tout ça, c'est en pellicule. Et par contre, maintenant, il est passé en numérique. Et moi, je trouve que c'est beaucoup moins beau. Là, il fait les campagnes Saint-Laurent, par exemple. Et ben, je les trouve beaucoup moins belles.
Mais ça vient de lui ou ça vient de l'EDA?
Ah, je pense que c'est lui qu'on a eu marre de pas voir ce qu'il faisait. Oh, je sais pas, je vais pas parler à sa place, mais je sais pas. Je pense que c'est lui qui, de toute façon, lui il fait ce qu'il veut. Donc,
Tu l'as déjà rencontré?
Vite fait.
Ouais.
il me fait peur.
C'est vrai?
Bah non, mais tu sais, quand t'es un peu fan de quelqu'un, ouais. Puis never meet your hero, comme on dit.
Ouais, c'est vrai. Est-ce que ça t'arrive de dire, ok, bah j'ai fait le tour de la question, j'ai envie de faire autre chose?
Non. Jamais sans réfléchir. Non, ouais. Non. Parce que j'aime ça, et j'apprends à chaque fois, donc j'ai jamais fait le tour. Et tu sais, c'est cette phrase un peu à la con où tu te dis, mon meilleur shoot, c'est le prochain. Donc, c'est un peu une quête permanente.
Et tu crois que tu arriveras à atteindre l'objectif final?
Non.
Non.
Je pense que le but, c'est toujours avoir envie de se dire, le prochain shoot, ça sera le meilleur jusqu'à ce que ce soit le dernier.
Le plus loin possible.
Ouais, c'est ça, ouais.
Ouais. À quel moment de ta carrière, tu as vraiment eu l'impression de progresser très rapidement? T'as eu un gros gap, quoi. Tu te dis, waouh, là j'ai pris en étoffe très vite, très rapidement.
Bah, y a pas très très longtemps, mais y a 2-3 ans où j'étais au Nicaragua, tu vois, pour le shoot pour vacances. Et juste avant de prendre l'avion, je reçois un mail de Minelli qui me propose de faire des campagnes. Et on pense ce qu'on veut de Minelli, mais c'est quand même une grosse marque avec un vrai budget. Et d'un seul coup, tu te sens important, c'est un set avec, je sais pas, 25 personnes, tu vois. Donc,
et là, c'est toi le patron quand t'es sur un set de 25 personnes.
En fait, t'es le patron, en fait, t'as la cliente, non, c'est ouais. La cliente qui choisit, t'as le DA, t'as un DA image, mais par contre, après, c'est un peu toi qui as le mot final, mais...
Ouais, c'est toi qui clique quand même, hein.
C'est, ouais, de toute façon, tu vois, à un moment, C'est moi qui prends la photo, mais non, t'es pas vraiment le patron, mais t'es le réal, quoi, tu vois. C'est toi qui es un peu le...
Et ça t'a permis de...
Bah ça, d'un seul coup, ouais, t'es affiché partout, ça te rend un peu plus sérieux. Et en fait, à partir de là, c'est découlé des beaux shoots et des vrais shoots avec Vestiaire Collectif, tu vois, avec Rouge, tu vois. Où c'est quand même... Ça, pour le coup, c'est des belles marques. Et de plus en plus de shoots à l'étranger, et c'est là où moi je suis bon, tu vois. C'est quand tu vas shooter à Lisbonne, quand on va shooter à Ibiza, à Lanzarote, tu vois. Là, moi, c'est là où je suis le meilleur, tu vois.
Mais en termes de progression, ce qui fait vraiment progresser, c'est quoi? C'est la pression, c'est avoir beaucoup de responsabilités, quoi.
Ouais, c'est ça. Et puis surtout, tu sais que les images vont être beaucoup plus vues. Et ça t'apporte une forme de reconnaissance qui est assez agréable, tu vois. Moi, je veux pas être connu, je m'en fiche, mais par contre, si t'as je sais pas combien de personnes qui voient tes images, bah ça fait plaisir, tu vois. J'ai bossé pour AD, j'ai fait une couve d'AD, tu vois. C'est quand même c'est des choses assez sympas quand t'es photographe, tu vois. T'as ta couve sur le mur de chez Condé Nast, c'est cool, tu vois, t'es content. Donc c'est un peu ça, là ça a pris un bon petit coup de boost à cette époque là
Le plus gros fail de ta carrière jusqu'à présent, c'est quoi?
Il y en a deux. Il y a shoot avec Mila Jovovic où l'appareil se casse au bout de deux clics, mais se casse. Sauf que tu peux pas lui dire c'est cassé, je me casse. Bah c'est cassé, je m'en vais. Donc j'ai fait semblant de prendre des photos pendant 5 minutes. Je faisais semblant d'appuyer sur le bouton et je faisais clic. Ouais, super, ok. Et donc à la fin il m'est resté donc les deux premières images qu'on a gardées pour le magazine, tu vois. Mais ça arrive jamais. Sauf quand ça arrive, quoi.
Et ça, donc, c'est... depuis, qu'est-ce que tu as appris de ça?
D'acheter un meilleur appareil photo et d'en avoir toujours un backup. D'avoir 4 batteries, d'avoir tout ça. Ça, c'était vraiment une anecdote. Un autre fail, c'est pas vraiment un fail, mais je shootais pour self-service avec Ezra Petronio à New York. Et on avait... 20 personnes, on était au Mercer à l'hôtel, et on avait une liste de personnes incroyables qu'on devait shooter toute la journée. Ryan McKinley, bon, je sais plus, tu vois. Et à un moment, il y a une petite blonde qui arrive, qu'on doit shooter. Je lui fais, tu fais quoi? Tu fais quoi, toi, dans la vie? Elle me dit, je suis actrice. Je fais, cool. Et je fais, tu fais quoi? T'as fait quoi comme film que je pourrais connaître, tu vois? Elle fait Roméo plus Juliette. Et c'était Claire Danes. Donc, je me suis mis tout rouge, j'étais tout rouge. Je suis allé prendre un verre d'eau, je suis revenu, j'ai fait, ah, cool. Et non, en termes de pro, c'était vraiment tous ces shoots de Nature Morte pour les montres qui m'ont fait perdre des clients, me faire perdre moi, mon envie de faire des bonnes images que j'aimais. Je me suis un peu perdu là-dedans. Donc ça, c'est un peu un fail.
C'est quoi ta la citation qui te suit tout le temps?
J'ai un tatouage, ça fait un peu cucu, mais j'ai un tatouage, c'est ad libitum, c'est ne t'arrête pas tant que tu n'es pas satisfait.
Ah, excellent.
Tu vois?
T'avais quel âge? Quand t'as fait ça?
Je sais pas.
Et ça te sert?
New York, 27.
Ouais.
Ouais, non, ça pour le coup, c'est un bon rappel. Mm. Par exemple, en shoot, c'est un moment, t'es crevé, t'es
t'as envie de lâcher, ouais.
Vers 16h, quand t'as la digestion, quand tu vois, t'as mal au dos, t'es machin, tu fais bon, allez, encore. Et ben non, là, tu vois, t'y vas et tu donnes le meilleur de toi jusqu'au bout. Et il faut que tu arrives à avoir la meilleure image. C'est un peu la quête. C'est d'avoir la meilleure image, quoi qu'il arrive. Tu te bats un peu pour ça, quoi. Et je me bats un peu même avec les clients, parce que les clients, parfois, ils veulent.
Ils ont marre,
on a vu le vêtement, là, tu vois. Mm. Le vêtement n'est pas froissé, la fille. Tu vois, je fais, non, le but, c'est quand même de faire une belle image, une bonne image. Et ça, c'est la quête.
Comme tu. Ad libitum.
Ad libitum.
Ne rien lâcher.
Ouais, en gros.
Mm. Quel conseil tu donnerais à un aspirant photographe?
De faire autre chose, comme ça nous laisse plus de taf. De shooter. C'est un peu comme l'OMS, tester. Là, c'est shooter. Tout le temps. Avoir un appareil tout le temps. Moi, je faisais ça quand je suis arrivé à Paris. J'avais un blog qui s'appelait Ugly Smile. Et t'as juste le mot blog, il m'a fait bizarre. Et en fait, dès que j'étais en soirée, je shootais tout le monde, tu vois. Et maintenant, quand je regarde les archives, c'est, tu vois, que des gens qui ont réussi hyper bien. Et donc,
t'as arrêté?
J'ai des dossiers sur eux. En fait, j'ai arrêté depuis Instagram, depuis que tout le monde fait des photos tout le temps.
Ouais.
Je vois pas trop l'intérêt de capter le quotidien en permanence et de faire des snapshots en permanence parce que, je sais pas, et puis de poster tout le monde. Je préfère me concentrer, faire de meilleures images. Tu vois, par exemple, là, je parlais de Pantelleria, l'île italienne où je vais souvent. Là, par contre, je prends des photos tout le temps et je vais les accumuler et faire en bouquin, tu vois. Mais prendre des photos de mon plat de pâtes ou de mes potes en soirée, ça ne m'intéresse plus trop. Donc, non, je ne le fais plus. Mais non, en conseil, c'est ça. Il faut shooter. Savoir ce qu'on veut faire et faire ce qu'on aime parce que sinon, on le fera mal. Et quand tu es mauvais à quelque chose, bah, ça ne marche pas. Donc,
Parlons de ce bouquin-là. Sur ton île préférée que tu rachèteras peut-être un jour. Non, mais en tout cas, tu peut-être que tu t'y installeras.
C'est prévu.
Qu'est-ce qui t'amène à faire un bouquin? Pourquoi tu fais un bouquin? Comment on fait un bouquin? Comment on choisit une photo qui va rester à vie dans un bouquin?
Ah, tu le vois direct. Bah, sans prétention aucune, parce que c'est mon travail. Moi, je le vois direct. Mm. On parlait de look tout à l'heure. Et tu sais, sur 36 photos ou 72, suivant, tu sais laquelle est bonne.
Tu la vois direct,
tout de suite.
Ouais.
C'est l'épaule, elle est là, elle est pas là. La bouche, elle est pas coupée. Non, tu le sais direct. Et après, c'est un peu pareil pour des images perso de vacances ou de voyage. Tu sais quand ça marche ou quand ça marche pas. C'est comme conduire. Tu réfléchis même plus. Au bout d'un moment, tu sais. C'est instinctif. Les histoires des bouquins et des expos, c'est assez bizarre parce que faire des expos, c'est bien. Tu vois, c'est ta envie. Mais quand tu es au vernissage, tu te rends compte que les gens, ils viennent juste boire des bières. Et ça n'a pas l'impact voulu, forcément. Donc, c'est un peu frustrant. C'est pour ça que j'en ai pas fait depuis quelques années. Parce que les gens, ils viennent, ils font deux selfies avec toi. Et après, ça vend, c'est pas le problème. Mais tu vois, je suis ravi quand les gens ont des œuvres chez eux. Mais. C'est assez frustrant finalement parce que je fais chez OFR, hein, tu vois, si j'étais au jeu de paume pas le même, non, mais, ou à la MEP, ça serait pas le même impact, hein, tu vois, mais voilà. Et un bouquin, c'est un peu pareil, c'est vraiment, je pense que tous les photographes ont envie de faire des expos et des bouquins tout le temps, mais après un bouquin, bah, ça, tu vois, les gens l'achètent, le regardent une fois et le rangent un peu, donc ça demande beaucoup d'énergie. T'es vraiment t'es à poil, quoi, tu vois, quand tu fais une expo, tu donnes tout, et donc c'est un peu frustrant, mais non, je pense que c'est un besoin, t'as besoin de montrer tes images, que ce soit sous la forme d'Insta, tu vois, ou d'un magazine, ou d'une expo, ou d'un bouquin.
Et là, t'es publié chez qui? T'as déjà trouvé quelqu'un?
Non.
D'accord. T'es au stade où tu...
Ouais, c'est pas, les images sont pas faites encore. Donc,
ouais.
Tu vois.
Ouais.
Non, mais par exemple, ou tu fais un bouquin tout seul et c'est un peu galère en compte d'auteur, mais tu peux t'en sortir et tu vois, si t'en fais 100, 200, tu vas les déposer partout dans les petites librairies, ça marche, tu vois. Ou alors, ouais, il faut trouver un éditeur. Et ça, c'est une vraie tannée.
Parce que, T'en as trouvé, toi?
Moi, c'est OFR qui les a édités à chaque fois. Les deux livres. Trois expos, deux livres. Les deux livres, c'est OFR qui me les a édités. Donc, tu vois, il choisit les images. On choisit les images ensemble. Lui, il les print. Il me demande pas d'argent, tu vois. Mais par contre, après, quand il les vend, je sais pas, 15 balles, il garde, tu vois, sa marge plus les frais, tu vois. Et non, là, pour le prochain, il faut déjà que je shoote. Et ensuite, on verra. Petit à petit.
Mais le rêve, ce serait quoi? C'est d'aller chez Rizzoli, ce genre de choses. C'est quoi le kiff pour un photographe?
Rizzoli, je trouve ça un peu daté, mais Steidl, c'est hyper bien. Après, je suis pas un grand calé. Je regarde un peu tes... Je suis pas un grand calé, mais non, Steidl, ça serait bien. Par exemple. Après, Tashion, tu vois, on dit pas non, forcément. Mais après, je peux le faire en... Tu peux le faire en compte d'auteur, hein. Tu le fais tout seul, moi ça me dérange pas. On verra, je me laisse couler, comme je te disais l'autre fois. C'est tout seul.
Ça va, ça vient, c'est à la rencontre quoi. C'est quoi le meilleur investissement que t'aies fait jusqu'à présent?
Monétaire, tu veux dire?
en monnaie, ouais. D'accord. Investissement en monnaie sur, dans ta carrière quoi, ou autre hein, d'ailleurs.
Un bon ordi, parce qu'à un moment il faut retoucher des images et c'est important. Un écran, je pense que, parce que tu as beaucoup de gens qui retouchent sur des petits MacBook, mais bon, d'un seul coup, si tu as le vrai display de chez Apple, bah putain, là tu retouches vraiment bien, c'est un bon investissement. Des bons appareils photo, hein.
Toi, tu disais que tu avais
j'ai un Contax G2, bah, j'en ai plusieurs, hein, évidemment, avec tous les objectifs qu'il faut. Et là, pour le coup, autant je suis pas quelqu'un de trop dépensier. Parce que ça sert à rien, mais par contre là je réfléchis même, tu vois. Et non, alors je pense que la vraie réponse, c'est toutes les pellicules que j'ai achetées quand j'étais à Lyon. C'est tout l'argent de poche qui est passé je sais pas, peut-être 5000 euros en 2 ans de pellicules et de développement, alors que j'étais à la fac, tu vois, on va dire. Et ça, c'était un vrai investissement, parce que je pense que vaut mieux mettre 5000 balles dans des péloches et tout shooter plutôt que de mettre 5000 balles au Gobelin, qui est une école de photo qui est très bien, mais je pense que t'apprends plus en shootant.
C'est quoi l'endroit où ça coûte le moins cher, les péloches, justement, et les tirages?
Chez Négatif Plus, moi j'aime bien. Après, t'as des processus, t'as Picto, tu vois, tout est à peu près au même tarif. Donc il n'y a pas vraiment de mauvais choix. À part le petit magasin Kodak en bas de la rue, ça faut pas, mais ouais. Mais non, Négatif Plus.
ça marche très bien.
Ouais.
Ouais. Qu'est-ce qui fait. Je te pose deux dernières questions et après je te libère. Ça, c'est pour tous les photographes amateurs dont je fais partie. Qu'est-ce qui fait qu'une photo, elle est bonne, quoi? Comment je peux faire en sorte.
La magie.
Non, mais c'est
vrai. Hein.
Mais comment je peux faire une photo qui marchera à tous les coups? Il n'y a pas des petits trucs? Non.
Non, bah après tu peux faire de l'histoire de l'art et tu vois, y réfléchir au nombre d'or. C'est 3 huitièmes, 5 huitièmes, et donc comme les yeux, tu vois, ça, 5 huitièmes, 3 huitièmes du visage. Et si tu fais une photo horizontale et que tu cales le corps, pas au milieu parce que ça a l'air bizarre, mais à 3 huitièmes, 5 huitièmes, d'un seul coup, la géométrie, elle est meilleure. Et non, le... Je sais pas, faut que ça marche, quoi. Mais c'est un peu inexplicable, hein, tu vois, c'est...
Tu sais pas pourquoi ça marche.
Il faut que ça évoque quelque chose. Il faut qu'il y ait un sentiment. Faut qu'il y ait, tu vois, si on prend que ce soit la photo d'un sac posé sur un bol de cerise, il faut que paf, ça soit bizarre. Il faut que ça te parle. Il faut qu'il y ait un éclairage. Et faut qu'il y ait un éclairage un peu spécial, parce que si tu fais une... Tu vois.
Et... Mais c'est comme cette photo. C'est que tu as dû en prendre... plusieurs, parce que enfin tout le monde peut prendre cette photo, mais finalement quand tu la regardes, c'est l'océan, enfin c'est la mer, c'est la Méditerranée,
c'est la mer à Syracuse.
Ouais. Ouais.
Bah là ça marche parce qu'il y a des vagues, donc il y a du remous, donc il y a de l'action, tu vois, parce que sinon si c'était juste deux rochers et la mer toute plate, ça serait chiant là, tu vois, tu sens qu'il y a de la tension. Et je pense que ça qui est intéressant, c'est pas comprendre ce qui se passe après. C'est une forme de frustration, tu vois, de se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe après ce clic ? Tu vois ? Et quand une fille, quand tu shootes une fille qui se retourne et qui te regarde et qui sourit, tu te dis, tiens, qu'est-ce qui se passe après ? Et je pense que c'est ça qui est intéressant. C'est créer de la frustration. Un peu comme, je sais pas, comme Beethoven, où, tu vois, où ça monte jamais. Tu es tout le temps un peu frustré parce que ça a envie que ça, tu vois. Et je pense qu'il faut essayer de créer ça dans une image, mais c'est très très compliqué. Hein.
Ouais, c'est le travail d'une vie. Hein.
Oui. Mais tu vois, une des photos que je vends le plus, par exemple, c'est une rambarde d'escalier qui tombe dans la mer, bah, qui va dans la mer.
Oui,
tu
je vois très bien.
Et c'est un petit best-seller à mon niveau, tu vois, mais ça, j'en ai vraiment vendu des tonnes. Et c'est à Positano, c'est dans un bar, et j'ai pris un seul clic entre mon transat et aller commander mon spritz. Je suis pas super, ah cool, clic. Et j'ai, tu vois. Et c'est d'une rentabilité pas, tu vois, pas possible, cette image.
C'est le clic le plus rentable de l'histoire de la photo.
Ah, peut-être. Non, je pense que. Non, t'as le foot opium avec Nathalie Vadernova. Je pense que celui-là, il est bien rentable. Ouais. Vu qu'il est toujours en presse.
Mais ouais, c'est vrai qu'il y a un côté quand même assez magique, quoi. Trop cool. Eh ben, écoute, merci infiniment. Tu connais ma dernière question.
Merci à toi.
Tu la connais, ma dernière question.
À qui je voudrais ?
Ouais.
Bah pour rester dans le thème, je pense que Alexandre d'OFR, ça serait cool. Parce que lui, mine de rien, il vend des livres et des magazines de mode depuis 20 ans, que ce soit des étudiants en art comme Kanye West, à Virgil Abloh, à Rick Owens, tu vois. Donc il a une vraie connaissance du milieu. Et sinon, Maxime Souverain, l'un de mes meilleurs amis qui travaille chez Céline à la presse, je pense que ça serait bien.
Et Alexandre, tu lui poserais quoi comme question ?
L'évolution des magazines, qu'est-ce que c'était ? Parce que lui, pour le coup, il connaît bien le biz depuis longtemps, tu vois, mais qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce que ça devient et qu'est-ce que ça va devenir ? Parce que les gens n'achètent plus de presse, mais par contre, les self-service, les appartamentos, les purple, ça se vend toujours, tu vois.
Et ça se vend comme des petits pains, j'ai l'impression, non ?
Je connais pas les chiffres, qui de toute façon sont faux, mais ils sont multipliés par 2 ou 3 à chaque fois. Mais oui, puis après, c'est une... Ou Ezra Petronio, tu l'as déjà eu, Ezra ?
Non, non, non.
Mais Ezra, faut parler à Ezra.
Ouais.
Ça va être compliqué de l'avoir, mais...
Ah, il est pas approchable ? C'est compliqué ?
Il est compliqué, ouais, c'est...
Ouais, c'est une resta, quoi. Ouais. The big boss, un trop cool. Ouais. Eh ben, merci infiniment, Bastien.
Merci, c'était cool.
Salut, à bientôt.
À plus tard.
Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, c'est simple. Allez sur le blog du podcast www.entreprendredanslamode.com. Aussi, si vous souhaitez me contacter ou me suggérer de nouveaux invités, vous pouvez le faire sur Instagram sous le pseudonyme @entreprendredanslamode. Enfin, le plus important, laissez-moi un avis sur Apple Podcast ou iTunes. 5 étoiles de préférence. Cela m'aide à faire connaître le podcast à plus de monde et m'encourage à faire de meilleures interviews. Merci de soutenir ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.